Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
À l'écoute de RDWA 101.7 et 107.5 FM, également sur internet www.rdwa.fr, en compagnie de Joël Miachon. Bonjour.
Ah ben bonjour.
On va parler ensemble des nouvelles du conte qui se tiennent cette année du 29 juillet au 7 août.
Oui, tout à fait.
Vous nous faites un petit rappel pour l'auditrice et l'auditeur qui ne connaît pas du tout cet événement.
Oh, les nouvelles du conte, c'est quand même la 34e édition.
Eh oui.
Voilà, depuis 1989, à Bourdeaux, dans la vallée du Roubion, on a un festival autour du conte, de ce qu'on appelle maintenant, depuis une trentaine d'années, la littérature orale, c'est-à-dire tous ces récits qui nous viennent d'il y a très très longtemps, ou qui sont beaucoup plus récents, mais qui adaptent des formes contées, de ce qu'on racontait au coin de la cheminée, de ce qu'on racontait pendant les travaux domestiques. Voilà, donc ces contes, un jour, un petit groupe de conteurs amateurs autour de Bourdeaux en 1989 s'est réuni autour d'une table en présence de quelqu'un qui avait quelques connaissances en théâtre et dans les milieux de la culture, Johannes Melsen, qui est directeur artistique du festival depuis cette époque-là. Et ils ont décidé de fonder un moment de rencontre autour de ces récits à Bourdeaux. Alors, dans un premier temps, ça a été nomade, c'est-à-dire que les soirées avaient lieu dans un village différent chaque soir, à tel point qu'à un moment, ça s'est appelé les Neuvaines du Conte. C'était neuf communes du canton de Bourdeaux. C'était 9 spectacles. Ensuite, ça a évolué, c'est devenu le geste et la parole. Et puis plus tard, à la fin des années 90, c'est devenu les Nouvelles du Conte. Nouvelles du Conte parce qu'il s'agissait justement de faire connaître ce qu'il y avait de nouveau dans ces récits. Ces récits qui ne sont pas du théâtre, où le conteur en fait, s'adresse au public, n'interprète pas un personnage, et simplement est dans un récit, raconte une histoire. Alors, il y a des histoires extrêmement connues, hein, qui sont passées souvent sous forme écrite, hein, en Europe grâce à Perrault et aux frères Grimm, mais quelques autres aussi en Italie, dont on souvent qu'on oublie. Et puis, bien entendu, avec la très célèbre Somme de Mille et Une Nuits, qui est un très long recueil de récits qui viennent depuis l'Inde, et de tout le Moyen-Orient, et qui a été en fait mis par écrit au XIVe siècle à Bagdad. Voilà. Tous ces récits, ben, ma foi, maintenant, ils sont passés sur la scène, après avoir longtemps été racontés sur les places, puis dans les familles, et ce sont devenus des spectacles. Et depuis 34 ans, autour de Bourdeaux ou à Bourdeaux même, on a un festival avec des conteurs donc, qui sont des artistes professionnels, même s'il y a des soirées réservées aux amateurs, et qui viennent de beaucoup d'endroits dans le monde. Cette année, nous avons un Québécois, une Belge, nous avons aussi un Africain, enfin, qui vit en France, mais enfin, bon, qui est d'origine africaine, Saïdou Abacha. Mais toutes les années, on a une palette de conteurs d'un peu partout.
Le conte, c'est une forme littéraire particulière. On a l'air de l'entendre là en creux. Est-ce qu'il y a un standard du conte? Est-ce qu'il doit... Tous les contes passent pas un peu par les mêmes phases?
Oh, oui, enfin, comme tous les récits. Le conte obéit à la loi, si je puis dire, à la forme, pas à la loi, à la forme du classique du récit, avec un début, un moment où toute l'histoire se noue pour aller vers un dénouement. Mais ce qui est très très intéressant dans le conte, c'est que il y a beaucoup de contes qui se ressemblent à travers le monde, aussi dans la mythologie. Les très grands contes mythologiques, le déluge par exemple, c'est un conte. Même si c'est une partie de la Bible, c'est quand même un conte. Et ce grand récit du déluge existe dans tous les pays du monde, sur tous les continents. Toujours à un moment, les dieux ont voulu punir les hommes de leur arrogance, de leur façon d'utiliser les choses, le monde. Et puis, ils ont voulu les éliminer et les ont fait renaître. Voilà. Et les différentes versions de certains contes sont tout à fait étonnantes. L'un des plus connus chez nous, c'est le Petit Chaperon Rouge. Alors, le Petit Chaperon Rouge, déjà en France, on en a une de multiples versions. Selon les régions. Et c'est vrai que Charles Perrault les a beaucoup édulcorés, enfin là, parce que le public auquel ce conte était destiné sous forme écrite ou même sous forme orale était un public de nobles, d'enfants de nobles. Et comme il avait récupéré tout cela par les nourrices de ses enfants, des nourrices qui venaient souvent du Morvan, du Nivernais. Évidemment, il a un peu édulcoré parce que parfois, c'est un peu rude.
Oui, la morale du Petit Chaperon Rouge est assez violente, il me semble.
Oui. Puis en fait, on y dit des choses qui sont pas toujours entendables. Enfin, maintenant, beaucoup plus, mais... Quand même, quand le Petit Chaperon Rouge, dans la version nivernaise, le Petit Chaperon Rouge, il arrive vers la grand-mère qui a été mangée, enfin le loup, là, et puis qu'il lui dit, mais il faut, si tu as soif et si tu as faim, tu manges avant de venir dans le lit avec moi. Eh bien, en fait, il y a là un chat noir qui dit au Petit Chaperon Rouge, mais salope, tu es en train de manger ta grand-mère et de boire son sang. Et là, il y a une symbolique derrière de l'enfant qui prend la suite de la grand-mère. Et pour cette raison, elle passe par l'épreuve du sang pour devenir femme. Et elle passe par le fait qu'elle incorpore ce qu'a porté la grand-mère pour devenir elle-même la mère. Voilà. Donc, il y a, contrairement à ce qu'on a souvent dit, ce conte n'est pas un conte d'avertissement. C'est un conte d'explication.
Plutôt très clair.
Plutôt très clair. Voilà. Et à l'époque, il n'y avait pas de problème dans les milieux populaires. Ce genre de choses se colportaient et puis on le racontait. Pas forcément qu'aux enfants, d'ailleurs. Voilà. Alors, dans notre programmation, d'ailleurs, nous avons Virginie Comagnéki, le 4 août, qui est une conteuse qui habite pas très loin de Bordeaux, là, qui est à Poët-Laval et qui circule dans le monde entier. Et Virginie a utilisé la thématique du Petit Chaperon Rouge dans quelque chose qu'elle appelle Rouge Mémère, un beau, très beau spectacle qui parle de sa grand-mère, à elle, qui, de surcroît, est ukrainienne. Enfin, était ukrainienne. Voilà. Donc,
l'occasion de mêler l'actualité.
Il se trouve, parce que la programmation était faite avant, mais il se trouve qu'il y a un lien là qui est un peu étrange, mais qui est très intéressant.
On va rentrer dans les détails des spectacles, bien sûr, Joël, mais pour rester encore un petit peu, continuer à donner envie. Alors, les contes ont toujours, ou presque, un fond... si ce n'est moralisateur, en tout cas d'éducation populaire, parfois politique aussi.
Oui, tout à fait.
Vous faites des choix liés à ça ?
Sur le fond politique, en fait, il y a toujours, pour nos festivals, il y a toujours une thématique. On essaye de s'y tenir, enfin, l'ensemble des spectacles essaye de s'y tenir, même si on fait des pas de côté. Mais en fait, il y a toujours une thématique. Une année, on avait fait quelque chose autour du mur de Schengen, par exemple. Ce qui nous avait valu d'ailleurs un peu l'absence de quelques élus qui n'avaient pas trop apprécié. Mais enfin, bon, ça avait été une très belle année. C'était dans les années 2010-2011. donc autour de l'exil, quoi. Voilà. Et donc on est toujours très relié à quelque chose, à quelque chose de l'actualité, parce que finalement, ces histoires, qu'elles soient anciennes ou qu'elles soient des récupérations dans des récits contemporains, elles parlent toujours de nous. Elles parlent toujours de nous, elles parlent toujours du monde et de la vie qu'on mène.
C'est des contes qui restent en permanence d'actualité.
Absolument, tout à fait. Je me souviens, là, en 2019, nous avions une conteuse là, qui était venue nous raconter quelque chose autour de problèmes d'emploi d'une personne qui se faisait virer parce qu'elle n'était plus à la mode dans l'entreprise. Elle datait, en quelque sorte. Et en fait, la conteuse avait articulé son histoire autour d'un conte de Grimm, où c'est l'histoire d'un soldat qui ne sert plus à rien, qui est rejeté, qui n'arrive même plus à avoir sa solde. Et avec ça, elle avait fait quelque chose de très contemporain et en même temps de très fantastique, puisque au bout du compte, cette personne finit par se venger avec des djinns, quoi, avec voilà
des, mages,
des esprits,
ouais,
des esprits. Mmh.
Des,
voilà,
des
et c'est et en fait elle parlait d'aujourd'hui, elle parlait de la façon, de la difficulté à vivre son métier jusqu'au bout de sa vie, quoi. Alors cette année le thème d'ailleurs le titre va toujours interroger, mais c'est le cas toujours, hein. Héraclite toi-même. Alors Héraclite, rien n'est permanent sauf le changement. Seul le changement est éternel. On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Sixième siècle avant Jésus-Christ. Alors c'est un philosophe donc grec qui était un grand polémiste, complètement en dehors du religieux, qui d'ailleurs connaissait fort bien tous les mythes de son époque, mais en quelque sorte les rejetait. Hein, puisque, en fait, disait ce monde-ci, le même pour tous les êtres, aucun dieu ni des hommes ne l'a créé. Six siècles avant Jésus-Christ. Hein, voilà. Un siècle plus tard, il y a un philosophe grec de la même région qui disait que, quand même, les petites bêtes qui sont dans le fond des océans ou dans le fond des fleuves, ben, finalement, elles se sont transformées pour donner des plus grandes. Déjà transformistes, 20 siècles avant Lamarck. Des gens qui sont très observateurs et qui, voilà.
Et donc, on Héraclite, constate que ça n'a pas bougé, en plus.
Voilà. Et Héraclite, voilà. C'est... Alors, bien entendu, ça nous permet d'aller revisiter quelques grands mythes, dont tout ce qui tourne autour de Troie. Parce que de temps en temps, il faut un peu démolir un peu les certitudes. Et puis, ce qui tourne autour du... pour une couronne d'olivier, tout ce qui tourne autour des Jeux Olympiques. Alors ça, dans une forme particulière, puisque c'est Robin Recourt qui fait ça en 5 épisodes, 5 soirs de suite, à 17h30.
Mais il fait un marathon.
Et donc, il fait un marathon, voilà. Il y a ça, il y a une saga irlandaise qui fait la clôture, hein, qui est des choses beaucoup moins connues que voilà, et avec Caroline Cyr et un musicien. Et puis il y a toujours des allusions quelque part dans tous ces récits, à tous ces grands mythes qui fondent nos sociétés depuis des siècles et des siècles et des fois depuis bien plus longtemps que ce qu'on pense.
On ne connaît même pas forcément les auteurs à l'origine.
Ah ben non, il n'y a pas d'auteur.
Tout est perdu. Voilà, c'est ça, c'est...
Les choses se font, se disent, se racontent comme ça. Les plus anciens mythes écrits sur des petites tablettes d'argile en écriture cunéiforme, ça remonte à 3500 ans avant Jésus-Christ, quoi. Toute la saga, toute l'épopée de Gilgamesh. Mais derrière cette épopée, il y a toute une mythologie autour des dieux, des créateurs, de qui a créé l'homme. Voilà. Ça venait de très loin, puisqu'on ne sait, on n'a jamais su vraiment d'où venaient les Sumériens.
Voilà. Est-ce qu'on peut être étonné du fait que l'humanité a toujours cherché à comprendre d'où elle venait et que du coup, c'est des textes qui sont là en, voilà, qui n'ont pas bougé, qui sont toujours les mêmes.
Bah non, non, bien sûr qu'on cherche toujours à savoir d'où on vient. Et comme disent les Africains, pour savoir où tu vas, il faut savoir d'où tu viens.
Hein, oui, mais on pourrait s'en tenir à quelque chose de très terre-à-terre et scientifique et dire, bon, bah voilà.
Il y a une quête de l'origine. Il y a une quête de l'origine, de même qu'il y a une espèce d'espoir du futur ou de crainte du futur. Mais finalement, ce qu'on connaît toujours le mieux, comme j'entendais l'autre jour un physicien à la radio, en fait, on ne sait rien du présent, parce que le présent, déjà, dès qu'on en a parlé, c'est déjà de l'histoire. C'est déjà du passé. Voilà. Mais alors, quant au futur, alors... Donc, c'est cette quête de savoir où c'est, d'où on vient, d'où on est.
Voilà. Est-ce que ça réglerait quelque chose de savoir que c'était un dieu qui nous a fabriqués ?
Oh,
ah non.
Non, non, non.
On aurait envie de savoir d'où vient ce dieu.
Voilà, de toute façon,
c'est,
oui.
C'est un là, peu c'est peine perdue.
Non, mais c'est l'histoire du Big Bang. Hein.
Voilà.
Qu'est-ce qu'il y a avant ? Est-ce qu'il y a des limites autour ? Est-ce qu'on est dans une grande boîte avec une limite, mais de l'autre côté, il y a quoi ?
Donc les contes rendent compte de cela. Et,
voilà.
Et pour revenir sur... Et pour parler de la forme, alors on s'attend toujours au conte un peu là au coin du feu, la veillée, ou alors quelque chose qu'on se dit avant d'aller se coucher. En fait, là, il y a des vraies propositions de spectacle.
Là, ce sont des propositions de spectacle sur scène, donc, et avec parfois un musicien, mais pas obligatoirement, avec une grande gestuelle ou une occupation de la scène. Mais pas obligatoirement. On a reçu plusieurs fois Henri Gougaud. Henri Gougaud fait partie de ces grands conteurs du renouveau du conte des années 70-80, qui s'assoit sur une chaise et qui parle pendant une heure et demie. Et on est passionné parce qu'il n'y a que sa voix.
Et c'est dans le ton, finalement, de la voix, dans l'interprétation.
Le ton, voilà.
Ouais.
On en aura cette année. Enfin, qui ne s'assoit pas sur une chaise, mais qui est un peu pareil, tout seul, sans rien. Pas. C'est Alberto Garcia Sanchez qui occupe la scène parce que lui vient du théâtre, mais un bon nombre de conteurs professionnels ne viennent pas forcément du théâtre, même s'ils sont passés aussi par une formation théâtrale, parce que occuper une scène, c'est pas, ça se fait pas comme ça uniquement parce qu'on a envie de le faire, hein, c'est plus compliqué. Et le conteur donc s'adresse au public, voilà.
Sur des gros publics.
Ah, ça peut être sur des gros publics. On a eu jusqu'à 200, 300 personnes. Et dans certaines salles, on peut avoir 800 personnes. Hein, ce n'est pas le problème. Moi, j'ai vu dans une grande salle de Mâcon, un jour, Djihad Darwish et ses filles, qui sont donc trois conteurs, dans une salle avec 400 personnes. Ce qui avait d'ailleurs surpris, parce que les gens qui viennent dans les grands théâtres n'ont pas l'habitude de ce type de récit. Pour eux, ils viennent voir du théâtre. Avec des gens, avec des répliques, avec un texte, avec, voilà. Et là, je me rappelle d'avoir vu quelques surprises. Alors moi, personnellement, je connaissais très bien les conteurs et c'est marrant après parce qu'on en discute et c'est intéressant. La réaction du public n'est pas la même que sur un festival de contes. Et il y a beaucoup de festivals de contes en France. Hein. Il y en a largement plus d'une centaine, même je crois 160, 170, entre l'été et l'hiver. Et là, ce sont des publics forcément plus restreints. Mais enfin, nous, on a eu sur notre grande ferme des Magnats à Bordeaux, on a eu jusqu'à 300 personnes dans la cour. Enfin non, un peu moins, il ne faut pas le dire, parce que ça débordait de tous les côtés. Mais on n'était pas en période de Covid encore. Hein
ça ne va pas savoir.
Voilà.
Alors, les nouvelles du conte à Bordeaux, on en a fait une belle introduction, Joël. Alors, du 29 juillet hein, au 7 août, c'est tout bientôt. On rentre un peu dans le détail de ce programme, alors même si certains noms ont déjà été cités.
Déjà, il faut parler des lieux. Et c'est important pour nous cette année parce que nous avons changé de lieu. Voilà, rien n'est permanent. Hein, voilà. notre lieu ayant... c'était un prêt gracieux d'une propriétaire généreuse, mais elle vend a vendu son domaine. Et donc, nous avons été obligés de trouver d'autres ressources. Donc, nous sommes en partie dans la grande salle des fêtes de Bordeaux. Comme toutes les salles des fêtes contemporaines, hein, ce n'est pas un lieu patrimonial, hein, mais c'est une belle salle avec un très bel équipement. Et puis, le deuxième lieu, ce sera la chapelle Saint-Jean de Crupy, qui est à 5 km au sud de Bordeaux, en direction de Bouvières. Alors, la chapelle, on l'utilisera en cas de repli, en cas de mauvais temps. C'est une chapelle qui accueille d'ailleurs souvent des concerts. Mais il y a un immense terrain autour. Et là, on aura, comme selon notre habitude, une scène avec des tapis et puis un lieu en extérieur. Plus un lieu abrité pour les repas le soir avant le spectacle. Voilà, ça c'est pour les lieux. Dans le lieu de Bordeaux, on a une librairie qui, cette année, sera ouverte tous les jours et à un endroit de spectacle, donc. À côté de cette librairie, il y aura une exposition photographique liée au thème d'Héraclite et du « Rien n'est permanent ». Et puis, il y aura les rencontres avec les artistes, soit à 17h30, soit à 15h30. Donc, il y aura 7 rencontres. Ce qui est très intéressant parce que souvent, après le spectacle, il y a toujours un moment convivial où on sert le thé à la menthe. Mais bon, les discussions sont moins faciles. Tandis que là, ce sera un peu organisé. Voilà. Échange avec l'artiste avant, d'ailleurs, après ou avant son spectacle, selon les moments.
Donc, c'est-à-dire que vous faites des propositions de questions où les gens viennent...
Alors, il y aura une petite présentation. Il y a quelqu'un qui va amorcer une discussion et après c'est au public de discuter avec l'artiste. Voilà. Et les artistes sont toujours très très ouverts sur... Alors c'est toujours les mêmes questions, c'est comment vous êtes venu au conte, est-ce que vous avez été comédien, est-ce que voilà. Et souvent les artistes ont beaucoup de choses à dire et ça éclaire beaucoup leur façon justement d'être dans le spectacle.
Ça me donne envie de vous poser la question... Est-ce qu'il y a un point commun à tous ces artistes pour être venus au conte, selon vous ?
Eh bien, très souvent, c'est comment amener le public à s'interroger, comment on t'envoie ce qui va te faire réfléchir, ce qui va t'interroger sur ta vie. J'ai eu une interview avec Virginie Comagnacchi, justement, qui disait qu'elle avait fait un peu de théâtre, plus en amateur à un moment, et puis avec des décors. Et un jour, elle s'est dit, mais non, mais à quoi servent les décors ? Moi, j'ai des choses à dire sur moi et sur les gens que j'ai en face de moi. J'ai à communiquer avec eux, mais c'est ma parole et moi-même. Je dois être un peu en communion avec eux, mais tout ce qui est derrière ne m'intéresse pas. Et puis mes costumes, j'ai pas besoin de costumes.
Donc on quitte l'amusement pur, le divertissement, pour devenir quelque chose de, enfin j'en parlais tout à l'heure, de plus direct et plus éducatif finalement.
Oui, éducatif si on veut, mais voilà, de plus réflexif quoi. Voilà, les gens qui sortent d'un spectacle de conte, on parle très souvent effectivement du contenu et qui souvent étonne. Là, c'est pas... Quand on va voir une pièce de théâtre, en général, en gros, on sait de quoi elle parle. Là, a priori, bon, on a des petits résumés dans les présentations, mais il se dit tellement d'autres choses avec cette parole. Donc voilà, on a 19 spectacles. On a 2 randonnées contées. Alors, c'est un peu particulier cette année parce que la première randonnée contée va avoir lieu le 5 août. Avec Kamel Guénoun, qui est un conteur qui est un peu associé au festival depuis un moment. Et il l'a fait au lever du soleil, à 5h du matin, voilà, pour observer le lever du soleil sur la montagne de Couspeau et sur les Trois Becs. Voilà, puisqu'on est, dès qu'on monte un peu au-dessus de Bordeaux, on a une vue splendide sur le col de la Chaudière, par exemple. Et c'est quelque chose qu'on a inauguré l'an passé. Donc, il y a une randonnée pendant un moment, puis il y a un moment où les gens, où Kamel raconte, et puis il y a toujours des conteurs amateurs à qui il donne la parole. Voilà. Donc, ça, c'est la première. Et le même jour, mais le soir, on aura donc Saïdou Abacha qui fera une randonnée contée du coucher du soleil. Ce sera à Saint-Jean-de-Crupy, et là, on sera tourné vers l'ouest. Et il va raconter pas mal de choses, quoi. Voilà. Là, ce sont les 2 randonnées.
C'est bien suivi à 5h du matin, c'est-à-dire qu'il faut partir
à 4h.
L'an passé,
on a été étonnés. Hein. On a été étonnés, on a eu 50 personnes. On s'était dit, oh, ça va être un petit groupe, 12-15 personnes. Pas du tout, 50 personnes. Je pense que cette année, ce sera pareil, parce que c'est, voilà, c'est original, quoi. Et les marcheurs, ils aiment bien des choses comme ça.
Oui, et puis je disais une bêtise, les marcheurs partent très tôt aussi.
Ils partent très tôt, oui.
Ben oui. Voilà. Pour marcher avant d'avoir trop chaud.
On a un stage de formation pour des compteurs amateurs, ordonné cette année par notre premier compteur, Jean-Marc Massy, qui fait l'ouverture du festival le 29 juillet. Après le 30 et le 31, il va faire un stage, donc destiné à des adultes, aussi bien débutants qu'un peu plus confirmés. Alors, il a intitulé son stage « Les 6 épices du compte ». Et quand on va sur le site des Nouvelles du Compte et qu'on veut s'inscrire à ce stage, il a encore le temps de s'inscrire, eh bien, on découvre les 6 épisodes, les 6 moments par rapport à ce qu'il veut faire avancer dans la parole comptée pour les gens qui ont envie de se mettre à compter, hein, en amateur, et de se mettre à compter devant un public, pas simplement devant ses petits-enfants. Ce sont toujours des stages assez passionnants. Donc Jean-Marc Massy, qui est québécois, qui va faire l'ouverture donc le 29 juillet à 15h30, avec quelque chose ouvert à tous les publics, y compris les enfants, qui s'appelle Plastic Cowboy. Une histoire un peu folle. Voilà.
Alors oui, il y a des comptes ouverts à tout public,
oui.
Et puis d'autres quand même où il faut faire un peu attention.
Oui, il y a une indication d'âge, hein, sur les programmes, donc plus de 7 ans ou plus de 12 ans.
Et ça, tous les jours, il y en a pour tout le monde.
Voilà, il y a toujours. Alors, il y a 4 après-midi qui ont lieu dans la salle des fêtes de Bordeaux, les 2 premiers jours, les 2 derniers jours, et c'est à 15h30 l'après-midi, et c'est toujours. Ces 4 spectacles sont ouverts à tout le monde. Voilà. Le spectacle sur la couronne d'Olivier, qui est à 17h30 régulièrement, au même endroit, pendant 5 jours. C'est à plus de 10 ans. Mais enfin, bon, on est dans la mythologie. De toute façon, il ne faut pas se leurrer. Les enfants, même de 7-8 ans, ils écoutent ça très bien. Hein. L'essentiel, c'est pour le conteur, c'est pour l'artiste, c'est de ne pas avoir des enfants qui bougent dans tous les coins. Voilà. Ce n'est pas la question de l'âge, elle est là. Maintenant, il y en a d'autres. Bon, par exemple, cette année, on a à nouveau Frédéric Nau, qui est un très grand conteur avec une très grande accordéoniste, Jeanne Vido, qui fait une histoire qui s'appelle Marcel Nu. Et c'est une histoire qui nous met en présence d'un problème de vie qu'il faut affronter, que certains affrontent, qui est la sexualité et le handicap. Là, il dit plus de 16 ans. Voilà, parce que, bon, à la fois, il y a des choses très crues. Hein. Sur les autres contes, c'est pas le problème, c'est pas le vocabulaire, c'est pas le contenu, c'est la compréhension. C'est-à-dire qu'un enfant de 6 ans qui voit quelque chose qui lui est pas directement destiné, il risque, au bout d'une demi-heure, de s'ennuyer, de bouger. Voilà. C'est là le problème, c'est tout. C'est pas la question tellement du contenu qui peut choquer, sauf par exemple donc celui que je citais, Frédéric Nau, qui voilà, on est là dans un domaine un peu particulier, mais il paraît que c'est un très très grand spectacle. Bon, je ne l'ai pas vu, mais voilà, le directeur artistique qui a vu cela, il a trouvé ça tellement extraordinaire, et en plus on connaît très bien Frédéric Nau, qui est déjà venu plusieurs fois et qui est un grand conteur, et qui a toujours une musicienne.
Il y a des conteurs qui viennent régulièrement oui. Sur ce festival, vous nous en parlez. Est-ce que vous astreignez, j'allais dire, ou c'est pas le bon mot, mais à trouver aussi des nouveaux talents?
Tout à fait, ben absolument. Ça. Voilà, là, nous avons des conteurs que nous ne connaissons pas forcément, ou qui sont un peu nouveaux dans le métier. Mathieu Hepp, sur les rives de Troyes, le 3 août. C'est quelqu'un, alors ce n'est pas un jeune conteur au sens qu'il n'a pas 25 ans, hein, mais en même temps, c'est quelqu'un qui a essayé de faire complètement autre chose. Moi, je l'avais vu une fois à Grenoble monter une histoire sur les jeux vidéo. c'était assez stupéfiant. Hein, et donc, ce sont des gens, ça, qui renouvellent. Voilà. Et puis, Hélène Bardot, qui est un peu moins connue, La révolte des petits vignerons, et puis voilà. Sylvie Mombo, qui est une jeune Africaine, mais qui, elle, raconte des histoires autour du RER. Et donc, on a toujours des gens comme ça. Et on a aussi des scènes ouvertes aux conteurs amateurs. Alors, il y en a une à la suite du stage, mais qui n'est pas réservée aux stagiaires, hein, qui est le dimanche 31, qui est prise en main par le responsable du stage. Et là, les gens peuvent s'inscrire. Alors, il faut aller s'inscrire. Hein, il faut passer par le site nouvelleduconte.org. Et il y a un endroit où on peut aller s'inscrire à la fois au stage et aussi aux scènes ouvertes. Et là, les gens viennent raconter ce qu'ils ont envie de raconter. Parfois, on découvre des gens là qui, pour certains, deviendront des conteurs. Enfin, on en a eu pendant des années. Les gens qu'on a retrouvés après, plus tard, on a même programmé quand ils sont rentrés dans l'univers du conte. Voilà. Alors, ils sont jeunes ou moins jeunes. On a eu Brigitte Rago en particulier, qui est de notre région, là, qui vient parfois, qui est peut-être même venue à Die, et qu'on a programmé il y a 2 ans dans un cadre un peu particulier. Et moi, j'ai vu à ses débuts. Et maintenant, elle fait des spectacles extraordinaires. Voilà. Donc, voilà, place aux jeunes ou aux jeunes conteurs, parce que des fois, les conteurs s'y mettent à 50 ans. Hein.
J'avais dit nouveau talent, moi, comme ça, j'avais pas
oui, nouveau talent, c'est très bien. Absolument. Je souscris.
Lesnouvellesduconte.org, on l'a dit, donc il y a un site internet sur lequel on retrouve toute la programmation.
Bien
et
sûr.
Il faut réserver.
Plutôt. Oui, il faut réserver. On peut même payer à l'avance. Hein, donc, réservation avec paiement.
Mais c'est conseillé, je veux dire.
Oui.
Parce qu'il y a quand même...
Et il est aussi conseillé de réserver les repas. Parce que les repas, on a là, pour le coup, une limite. C'est-à-dire que, comme on commande cela à un traiteur de la région, entièrement bio, Serge Alain, qui est à Cré. À Cré est dans la vallée de la Gervanne. Donc, cette personne, on lui commande un certain nombre de repas, mais il faut éviter qu'il en reste. Donc, on demande aux gens vraiment de s'inscrire à l'avance. En général, il y en a toujours un peu plus. Hein. Mais enfin, c'est préférable. Voilà, on peut faire... Dès aujourd'hui, on peut réserver. Il y a déjà... D'ailleurs, le dispositif est en place depuis le mois de juin. Et on a déjà un certain nombre... On reçoit toutes les semaines un tableau de la structure qui fournit le logiciel de réservation. Et toutes les semaines, on voit tant de repas, tant de places pour tel spectacle, etc. Sachant qu'il y a différents systèmes au niveau cette année. On a un système de passe pour le tarif, de passe pour un jour de spectacle, pour 3 spectacles du soir, ou pour le compte à 5 épisodes. On peut tous les voir. On a un passe pour la totalité du festival. On a inauguré ça cette année. Je ne pense pas qu'on en aura beaucoup. C'est quand même 160 euros. Hein. Mais il y a des gens qui viennent à Bordeaux uniquement pour le festival et qui prennent
leurs vacances
pour une semaine.
Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, à eux, le passe.
Voilà. Voilà, voilà. Et les chèques vacances sont acceptés.
Les nouvelles du comte de Bordeaux, mais aussi à Crupy, donc deux
voilà.
lieux.
Voilà. On disait dans le temps, dans le pays de Bordeaux. Bon, alors le pays de Bordeaux, c'est une entité, même pas administrative, mais une entité territoriale qui n'a plus cours. Hein. Voilà, on ne parle plus de ça maintenant, mais voilà, c'est dans le pays de Bordeaux.
Qu'est-ce qu'on trouve d'autre sur ce festival ? Vous nous avez dit à manger.
À manger, à boire. Hein, y a une buvette, bien sûr, sur les deux lieux. Dans la salle des fêtes à Bordeaux, il n'y aura pas à manger, par contre. Hein. Y a un spectacle, celui de Frédéric Nau, qui ne peut pas avoir lieu. Il est en soirée, mais il n'a pas lieu à Crupy. Il a lieu dans la salle des fêtes pour des raisons techniques. Et là, eh bien, nous invitons les spectateurs, c'est prévenu dans les, voilà, dans les programmes, à trouver à manger dans Bordeaux. Parce qu'il y a quand même 3 restaurants intéressants qui nous offrent une petite collaboration de sponsoring. Donc, de toute façon, on peut manger à Bordeaux sans problème, mais on ne mangera pas dans la salle, par contre. Voilà. Sinon, que dire ? Simplement, autour, pour c'est important par rapport à ce qui se passe autour du conte. Nous aurons un stage pour les enfants de l'accueil de loisirs de Bordeaux. Ah, ça, c'est simplement, je le signale, parce qu'il n'y a pas d'inscription extérieure. Sinon, à inscrire son enfant à l'accueil de loisirs de Bordeaux pendant la période du 1er au 5 août, qui est animé par, par Vincent Hickman, qui est un conteur local qui habite à Cray et qui est aussi un peu spécialisé dans les contes africains et les instruments de musique africains, du Zimbabwe en particulier. Et lui produira, c'est un petit peu en marge, donc ça ne se trouve pas malheureusement, parce que c'était très tardif, ça ne se trouve pas dans le programme écrit, mais il produira deux spectacles extérieurs, l'un à Sous et l'autre à Bouvières. Et pour ça, on le retrouve sur le site par contre. Hein. Si je me souviens bien, à Sous, ça doit être le 26, c'est à Gasoline Palace, le nouveau lieu à Sous. Et puis à Bouvières, j'avoue que je ne sais plus là tout de suite, mais c'est en fin d'après-midi. Et puis, il fera un petit spectacle pour l'ensemble des enfants du centre de loisirs. Ça nous a beaucoup intéressé de mettre ça au point. Ce n'est pas la première fois qu'on fait des stages pour les enfants. Enfin, depuis 2 ans, il n'en était pas question à cause du Covid. Hein, il n'y avait plus de lieux. Les accueils de loisirs rassembler plus des enfants dans des lieux particuliers pour une durée régulière. Mais ça fait des années qu'on fait cela. Mais cette année, ça va à la suite de ce qu'on a pu réussir avec l'école primaire de Bordeaux, où pendant 3 mois, une conteuse est venue travailler le conte avec des enfants à l'école de Bordeaux. Voilà. Et d'ailleurs, il y a eu des productions écrites qui seront exposées à la librairie pendant le festival.
Il s'écrit toujours des nouveaux contes ?
Oui, il s'écrit des récits qui s'inspirent de la forme contée. Voilà. Et qui parfois utilisent des portions d'anciens contes. C'est ce que je disais pour Rouge Mémère de Virginie Komeniecki. Hein. Elle ne va pas nous raconter le petit chaperon rouge. Mais en fait, il est derrière. Il est là, en arrière-plan. Et puis, il y en a beaucoup comme ça.
Les nouvelles du conte de Bordeaux, du 29 juillet au 7 août. Est-ce qu'on a tout dit, Joël ?
Bordeaux, c'est facile à trouver. Hein.
Ouais.
Et puis pour aller de Bordeaux à Crupy, de toute façon, il y aura des petites pyramides bleues, ce qui a toujours été le cas quand on guidait les gens vers nos lieux. Il y a des croisements avec des petites pyramides bleues et puis des petites indications, nouvelles du conte. Mais tout cela maintenant... À notre époque, ultra guidée, cela se trouve facilement. Voilà, et puis, il y aura de bons repas. Donc, on n'hésite pas à venir, à s'inscrire à l'avance et à découvrir des récits, des artistes. Et cette année, je pense qu'il fera très, très beau temps.
Peut-être même très chaud.
Peut-être même très chaud. Mais bon, parce que l'an passé, on a eu beaucoup de difficultés. Et en principe, alors, on va nous poser la question, est-ce qu'il faudra un masque ? Les gens feront comme ils le souhaitent. On ne va pas les interdire, bien sûr. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas d'obligation.
Il n'y a pas de protocole.
Il n'y a pas de protocole. Ouais. Comme on a dit en haut lieu, chacun est responsable. On sait qu'à nouveau, il y a des difficultés peut-être. Et puis on aura du gel hydroalcoolique aussi, et puis voilà. Donc on vient en confiance, on vient se distraire, on vient parfois rire, parce que attention, hein, j'ai parlé de mythologie, de choses comme ça, mais on peut rire. Hein. Il y aura un certain nombre de choses où les gens vont rigoler un peu.
Joël Miachon, président de Les Nouvelles du Conte de Bordeaux, à retrouver sur Internet évidemment. Merci.
Eh bien, merci de m'avoir reçu et de présenter cette 34e édition. À la prochaine.
Interview.
Hey, the bird. L'interview du jour.